Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Babel Pongo Masimango.
À la une, Ebola, avec ses données actualisées du gouvernement. On a néanmoins 1000 cas symptomatiques dont 101 confirmés. Environ 230 personnes sont actuellement prises en charge dans les trois provinces touchées, à savoir l'Ituri et les deux Kivu. Précision du ministre de la Santé hier à Kinshasa. Dans ce journal aussi, ces cas d'insécurité signalés à Ngaliema et à Barumbu avec mort d'homme pour cette dernière commune. À chaque fois, ce sont des bandits armés qui ont opéré la nuit dans des maisons d'habitation sans être pris. Dialogue entre Congolais et réfugiés sur ces attaques de drones enregistrées à l'aéroport de Kisangani dimanche et aussi à Rubaya ainsi qu'à Rumangabo au Nord Kivu. Vous suivrez les analyses des invités. Madame, Messieurs, bonjour. Les jours passent et les cas de la maladie à virus Ebola augmentent en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique a rapporté hier mardi au moins 1000 cas symptomatiques dont 101 confirmés, ainsi que 17 décès confirmés d'Ebola en seulement 11 jours de la déclaration officielle de cette maladie en RDC. Roger Kamba a livré ses statistiques à Kinshasa lors d'un briefing de presse co-animé avec son collègue de la communication et des médias Patrick Muyaya. Il précise qu'environ 230 personnes sont actuellement prise en charge dans les trois provinces touchées, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu ainsi que le Sud Kivu. Les propos de Roger Kamba, recueillis par Blaise Shindani Kambala.
Nous sommes autour de 1000 personnes qui sont touchées aujourd'hui, qui présentent des symptômes. Dans ces 1000 personnes-là, combien ont été confirmées Ebola? C'est 101 personnes. Maintenant, quand nous regardons le nombre de personnes décédées, encore une fois, décès probable, nous sommes autour de 200, 220 personnes que nous pouvons dire son décès est probablement lié à Ebola. Maintenant, quand nous regardons les personnes décédées dont les tests sont positifs, donc nous sommes sûrs de ça, eh bien, ils sont autour de 17. Nous regardons un autre chiffre qui est très important, c'est le nombre de personnes qui ont été en contact avec les malades. Nous sommes autour de 3600 personnes. Et là-dedans, nous classifions maintenant les contacts sévères, les contacts à très haut risque. Par exemple, une maman qui gardait son mari, ou qui gardait un enfant, ou un mari qui gardait sa femme. Ces contacts-là, eux, sont des contacts à haut risque. Et puis, il y a aussi des contacts, par exemple, des personnes qui travaillent ensemble avec quelqu'un qui est malade. Et puis ensuite, il y a des contacts, on va dire, occasionnels.
Et pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, juge nécessaire que les professionnels des médias disposent de toutes les informations afin de mieux mobiliser la population contre cette maladie. Et sur le terrain, des aides continuent à affluer pour lutter contre Ebola. 100 motos, par exemple, ont été remises au gouverneur de la province de l'Ituri par le représentant résident de l'UNICEF en RDC, John Agbor. Il est question de renforcer la logistique sur le terrain, la rapidité de la riposte demeurant un facteur déterminant pour limiter la propagation et sauver des vies. Autre don, c'est celui du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA. Il a remis une ambulance au gouverneur de l'Ituri à l'hôpital général de référence de Bounia. Cette initiative s'inscrit aussi dans une dynamique globale de renforcement du système de santé et de protection des femmes, en particulier dans les zones touchées par des défis humanitaires et sanitaires persistants. Un quoi que tout de même, dans la prévention contre Ebola à Beni, la population de ce coin du Nord Kivu est confrontée au manque d'eau potable. Ce liquide précieux ne coule plus des robinets depuis plusieurs mois dans certains quartiers de ce territoire, tandis que d'autres ne sont approvisionnés qu'une ou deux fois la semaine. Pourtant, le lavage régulier des mains avec de l'eau propre et du savon est recommandé car il demeure l'une des principales mesures de prévention contre la maladie selon les experts. Ce problème de manque d'accès régulier à l'eau potable suscite évidemment de vives inquiétudes auprès de la population, comme l'explique ici Martial Papi-Moukeba.
Dans plusieurs quartiers de Beni, les habitants peinent à s'approvisionner régulièrement en eau potable. Certains ménages passent plusieurs mois sans être servis en eau, malgré les besoins croissants liés à la prévention contre Ebola, une difficulté qui complique notamment les respects des mesures d'hygiène recommandées par les autorités sanitaires. Les responsables de la protection civile à Beni, Jean-Pierre Capitula, estiment que sans un approvisionnement régulier en eau potable, les efforts de prévention risque de se heurter à d'importantes difficultés sur le terrain.
Nous n'avons pas l'eau. L'accès à l'eau potable aujourd'hui, c'est un problème très significatif. Même si nous avons la régie des eaux, mais elle a des difficultés à servir toute la population de Beni. On ne peut pas dire que l'eau est primordial pour que nous puissions faciliter le lavage des mains et ne pas avoir l'accès facile à cette eau. Le gouvernement doit prendre les responsabilités pour toutes les questions majeures qui nous permettent à rendre facile la lutte contre la maladie à virus Ebola.
Un défi majeur dans ce contexte de crise sanitaire, d'autant plus que la région de Beni connaît d'importants mouvements de population avec la province voisine de l'Ituri, épicentre de l'actuelle épidémie d'Ebola. Beni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Et de son côté, la province de la Tchopo se prépare aussi face à la menace d'Ebola. En tout cas, sur place, l'alerte est maximale. L'église catholique de Kisangani impose déjà un cordon sanitaire pratique vu l'intensité du trafic humain sur la route nationale numéro 4 et à l'aéroport de Bangboka. L'archevêque métropolitain de Kisangani le fait savoir en jour après la déclaration officielle de l'épidémie en Ituri par le ministre de la Santé. Ces informations recueillies par Jacques Moukonkole sont rendues par Jean-Désiré Kanyama.
Pas de psychose, mais plutôt une vigilance absolue. C'est le mot d'ordre de l'archevêque métropolitain de Kisangani. Dans un message pastoral d'urgence adressé au curé, à presque toutes les paroisses et à l'ensemble des fidèles de sa juridiction pastorale, Monseigneur Marcel Outembitapa tire la sonnette d'alarme. La raison de cette grande offensive, la proximité immédiate avec le foyer d'Ituri, combinée au mouvement incessant des populations. Pour faire barrage au virus, le prélat catholique exige le respect strict et immédiat des consignes sanitaires. Désormais, dit-il, les habitudes doivent changer, même au sein de l'église. Monseigneur Marcel Outembitapa appelle à suspendre temporairement les traditionnelles poignées de main et les accolades, des gestes pourtant ancrés dans la fraternité chrétienne. À cela s'ajoutent les règles d'or du ministère de la Santé, lavage régulier des mains au savon ou au gel hydroalcoolique, interdiction stricte de manipuler du gibier trouvé mort, interdiction absolue de toucher les corps de personnes décédées. Le prélat catholique insiste face à toute personne présentant une fièvre, une fatigue intense, des vomissements ou des saignements, le mot d'ordre est la distance et le signalement.
Insécurité à Kinshasa, elle semble avoir la peau dure dans la capitale et aucune commune n'est épargnée. Tenez, plusieurs personnes ont été blessées grièvement et violées par des hommes armés non identifiés dans une parcelle située dans la commune de Ngalema. C'est précisément aux environs de l'arrêt Brikine du collège Reka. Les faits se sont déroulés la nuit de lundi à hier mardi entre 3 et 4 heures du matin. Les résidents font aussi état de scènes de panique, de vols de biens de valeur, d'argent ainsi que d'autres actes de torture. Selon des témoignages des habitants qui est sur place, l'attaque s'est déroulée sans intervention des forces de sécurité. Face à cette situation persistante, les habitants de Dimanga appellent à une réaction rapide des autorités et à l'installation urgente d'un poste de police pour mettre fin à cette spirale de violence. Un témoin qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons de sécurité explique la situation au micro de Nancy Tambo.
Nous avons passé une nuit très agitée, de 3h du matin jusqu'à 4h30, sans intervention de la police. Ces criminels, lourdement armés, parce qu'ils avaient entre leurs mains deux machettes, deux armes et d'autres matériels qui leur ont permis d'ouvrir chaque porte ici au niveau de la parcelle. Ils ont posé les actes de sabotage. Il y a eu les cas des vols, des viols, des tortures. Il y en a qui ont reçu les coups de machette et consorts. Ils ont dépouillé les familles. Nous demandons aux autorités de la ville, notamment le gouverneur de la ville province de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa, de pouvoir aider cette population de la commune de Ngaliema à installer un sous-siat de la police sur l'avenue Dimanga, soit l'avenue Kananga, c'est aux alentours du collège Reka, parce que c'est là où, dans ces quartiers où l'insécurité bat record.
Pour sa part, le bourgmestre de la commune de Ngalema déclare ne pas avoir été informé de la situation. Il promet toutefois de revenir avec d'autres détails. Du côté de la commune de Barumbu, toujours à Kinshasa, là, hélas, il y a eu un mort d'homme. Il s'agit d'un auditeur du cadastre minier décédé lundi des suites de ses blessures, soit 2 jours après avoir été attaqué par des bandits armés à son domicile. Selon le bourgmestre de cette municipalité, Christophe Lomami, la victime aussi directeur du cadastre minier, avait été clairement blessé par balle lors de cette incursion avant d'être transféré dans un hôpital de la place pour des soins. Le bourgmestre exhorte la population à signaler tout cas suspect ou toute attaque à la police nationale afin de permettre une intervention en rapide. Christophe Lomami au téléphone de Blaise Ndongala.
Le vendredi 22 mai, vers 2h, qu'il a été visité par une bande de criminels qui croyait trouver tas de dollars chez lui. Malheureusement, en forçant sa porte de la maison et de la parcelle, il s'est rendu compte que le monsieur n'avait rien dans sa maison. Et cette bande de criminels a décidé d'abattre le monsieur. Mais il n'a pas succombé. Et dans sa chambre de la maison, on l'a amené jusqu'à l'hôpital Kakokolo. Ce n'est qu'hier, lundi, qu'il a rendu l'âme. Ce que je peux donner comme conseil à la population de Barumbu, c'est d'être prudent, parce que nous sommes des voisins. Quand vous sentez qu'un voisin est menacé, mais il y a des numéros de la police. Nous avons des postes de police qui sont à nos côtés. Pourquoi ne pas appeler? Chacun de nous doit prendre une responsabilité quelconque. Les moyens logistiques posent un sérieux problème, mais dans des cas comme ça, nous avons l'habitude d'engager des motos la nuit et voir comment intervenir.
Sécurité toujours, des équipes d'inspecteurs de l'IGPNC, l'Inspection Générale de la Police Nationale Congolaise, mènent depuis lundi des visites de contrôle dans les cachots des commissariats urbains de la police pour déceler tout cas d'arrestation arbitraire ou illégale. Toute personne arrêtée à cause de sa chevelure, par exemple, sans avoir commis d'autres infractions est libérée. Il en est de même pour tout mineur et autres cas de dépassement de délai de garde à vue qui sont également examinés à travers ces visites. L'inspecteur général Philémon Patience Mouchidia entend répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur de combattre tous les cas de violation des droits humains par des agents de la police. On écoute à ces propos l'inspecteur Jean-Claude Chibuyanga, superviseur de ces visites, qui invite la population à collaborer avec l'IGPNC en dénonçant tout acte contraire à la loi commis par des policiers.
La population ne peut que venir à l'inspection générale pour dénoncer les cas de tracasseries que les autorités sont en train de décrier, les tracasseries qui sont les œuvres de la police. Donc la population doit venir à l'IG. Nous sommes sur l'avenue de la justice numéro 40 à la Gombe. La population peut encore nous saisir à travers notre antenne qui est à Lemba au niveau du camp Kabila, juste à l'entrée. Alors pour ceux-là qui nous suivent au-delà de la capitale, dans chaque province, l'inspection générale est représentée dans chaque chef-lieu. Donc la population n'a qu'à nous saisir à travers les plaintes, à travers les dénonciations qui nous permettront à nous d'agir et d'appliquer nos mécanismes qui sont les contrôles, les audits, les enquêtes et l'évaluation. Et vous devez vous rassurer que la plainte chez nous à l'inspection générale, elle est gratuite. Donc des procédures à l'IGPNC, de A à Z, sont gratuites. Donc la population n'a pas à s'élémenter.
Pour la suite de ce journal, sachez que la RDC se dote désormais d'un cadre normatif national pour les infrastructures et travaux publics. Cela veut tout simplement dire que le gouvernement, via le ministère des Infrastructures, lance des travaux d'élaboration de ces règles en matière de construction. C'était hier mardi à Kinshasa. Ce forum vise notamment à aider le pays à relever l'immensité des défis liés aux infrastructures et à se doter des textes garantissant la sécurité des ouvrages tout en assurant la durabilité des infrastructures à travers le territoire. D'été avec Blaise Ndongala.
Ce forum réunit plus de 200 participants venus de divers horizons dans le but de faire de la normalisation un pilier de l'action publique en RDC. Pour le secrétaire général à la construction, cette rencontre constitue une avancée majeure pour le secteur de la construction et du développement urbain. Le ministre des Infrastructures et Travaux Publics est convaincu que ce forum ouvre une nouvelle ère au service des qualités de la sécurité publique et de la durabilité des ouvrages dans tous les pays. John Banzalunda.
La normalisation du secteur des infrastructures et travaux publics exprime la volonté du gouvernement de faire du cadre normatif un instrument de souveraineté, de sécurité publique, de qualité des ouvrages et de bonne gestion des ressources nationales.
Pour sa part, la première ministre estime que l'adoption et la mise en application des normes strictes dans les secteurs des infrastructures et travaux publics répondent à des défis cruciaux d'urbanisation, de sécurité et de durabilité.
Une norme juste, bien élaborée et bien appliquée est une garantie contre les malfaçons, contre le gaspillage des ressources publiques, la fragilité des ouvrages et contre les drames que peuvent provoquer des constructions mal conçues.
La mise en place des normes constitue une première étape juridique et technique essentielle, mais son succès dépendra des sanctions appliquées en cas de non-conformité à travers le pays.
La cité de Kasungulunda dans l'ex-Bandundu menacée de disparition et pour cause la multiplication des têtes d'érosion qui encerclent cette cité du Kwango et envahissent ses trois voies d'accès. Selon la population, la société civile locale, la situation qui dure depuis l'année dernière s'aggrave continuellement et touche tous les 7 quartiers de la cité. Son président Bonaventure Kulemba déplore aussi la forte dégradation des routes et des dessertes agricoles dans ce territoire, raison pour laquelle il lance un appel pressant au gouvernement central et provincial du Kwango ainsi qu'aux élus de la province afin d'intervenir rapidement pour stopper l'avancée de ces ravins et sauver Kasungulunda. On écoute Bonaventure Kulemba, joint par Blaise Chindani.
Kasungulunda est en voie de disparition. Pourquoi? Parce que les trois voies d'accès par Mahonga, par Munganda, par Gabisa, les trois voies sont menacées d'érosion. Et si on circule aussi à travers les quartiers, dans tous les 7 quartiers du territoire, il y a aussi des têtes d'érosion. Avec la jeunesse, nous avons tenté, mais ce sont des efforts en vain parce que ça vient avec une allure que nous ne pouvons pas maîtriser. C'est pourquoi nous attendons qu'on puisse quand même être attentif à ce territoire qui est en train de s'effacer. Donc l'enclavement total, il n'y a pas de route. Les routes des dessertes agricoles, il n'y en a pas. Alors c'est pourquoi nous sollicitons une intervention. C'est pourquoi je rappelle encore aux élus du territoire de Kasungulunda, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. J'appelle aussi à une générosité et une solidarité de caucus des députés du Kwango pour sauver Kasungulunda. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Envoyez-nous des outils aratoires, des houes, des bêches, des pelles, tout ce que vous voulez, des pioches, pour que nous puissions intervenir. Envoyez-nous des sacs.
Actualité internationale.
Les autorités africaines observent une présence croissante des cartels mexicains dans plusieurs pays du continent, notamment en Afrique du Sud, au Nigeria et au Mozambique. Africanews.fr rapporte que ces organisations criminelles sont de plus en plus impliquées dans la production locale de méthamphétamine, aussi appelée crystal meth. Début mai, la police sud-africaine a démantelé un important laboratoire clandestin dans la province du Nord-Ouest. Plus de 480 kilos de méthamphétamine y ont été saisis, ainsi que des équipements estimés à plus de 50 millions d'euros. Parmi les 11 suspects été figuré 5 ressortissants mexicains.
L'invité.
2 drones armés ont visé les installations aéroportuaires de l'aéroport international de Bamboka dimanche. Par ailleurs, la situation sécuritaire est restée tendue lundi dans plusieurs localités du territoire de Masisi et Rutshuru au Nord Kivu au lendemain des frappes aériennes attribuées à des drones militaires qui ont visé Rubaya et Rumangabo. Cette situation sécuritaire a été au centre des échanges entre les intervenants dans le dialogue entre Congolais. On les écoute au micro de Guimaté.
Bob Kabamba, vous êtes politologue et professeur à l'Université de Liège en Belgique. C'est quoi votre lecture de ces attaques de drones?
Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis quand même un petit temps, nous arrivons à un point zéro. C'est-à-dire qu'on a eu un accord de cessez-le-feu, un accord qui a été signé à Genève, pour lequel on n'a même pas de résultats sur le terrain. Alors, ce qui est en train d'arriver, c'est que de part et d'autre, tout le monde s'est renforcé. Ne s'est pas renforcé non pas au niveau politique ou diplomatique, etc., mais ils se sont renforcés au niveau sécuritaire. Du côté FRDC, gouvernement congolais, on a vu l'arrivée des instructeurs mercenaires et renforcement de la dynamique de commandement au niveau des FRDC en vue d'avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle un coup de force qui va arriver à mettre KO la rébellion en face. Alors, du côté de la rébellion, qu'est-ce qu'on constate? On a vu qu'ils se sont renforcés, eux aussi, au niveau des ressources humaines. Ils ont recruté, formé, et les chiffres que j'ai diffusés par l'AFCM23 parlent aujourd'hui de plus ou moins 42 000 hommes formés et prêts au combat. Et donc, vous avez une situation de stabilité de cessez-le-feu qui ne dit pas son nom. Et donc, de deux côtés, on se renforce. Chacun, maintenant, est en disposition de dire je peux donner l'escatode finale pour pouvoir arriver à l'objectif que je me suis fixé. Malheureusement, c'est là où on est en train d'arriver, où chaque partie maintenant essaye de tester l'autre pour voir quelles sont les capacités des uns et des autres avant d'engager ce qu'on peut appeler la bataille finale.
Merci, Rigen Miviri. Vous êtes avocat et chercheur à Ebouteli, partenaire des recherches et du groupe d'études sur le Congo, GEC en sigle. Comment vous expliquez le fait que les deux protocoles sur lesquels les deux parties se sont mis d'accord récemment à Montreux en Suisse ne soient pas mis en application? Pourtant, de l'avis de beaucoup d'experts, ce sont les protocoles les plus faciles parmi les oui en discussion dans le cadre du processus de Doha. Qu'est-ce qui est difficile pour appliquer ces deux protocoles, Rigen Miviri? La libération des détenus et la mise en place des mécanismes de surveillance du cessez-le-feu. Qu'est-ce qui est difficile?
Rien n'est difficile, sauf la volonté des partis. Donc, c'est les partis qui ne veulent pas faire la mise en œuvre. Peut-être qu'ils considèrent que ce n'est pas dans leur intérêt de faire la mise en œuvre. Pourtant, on pensait tous que ça pouvait aller très vite. Ou peut-être qu'il y a un intérêt politique dans le statu quo. En réalité, le statu quo signifie quoi? Signifie que celui qui est à Goma continue à être à Goma et celui qui est à Kinshasa continue à être à Kinshasa. Et puis voilà, tout le monde va blâmer la guerre pour ses faiblesses, que ce soit des faiblesses de gouvernance et tout ça. Donc je pense dans une certaine mesure, il y a peut-être un point commun, pour ne pas dire intérêt d'attente entre les parties, de continuer à parler et jouer le pendule, et la situation sera en train de se développer sur le terrain. Et par contre, le terrain peut amener à une plus grande escalade, même si moi je serais plus nuancé que le prof sur le fait que l'on puisse envisager un assaut final. L'assaut final signifierait quoi? L'assaut final signifierait que le F-23 essaie d'aller jusqu'à Kinshasa, ou bien l'assaut final pour, du côté gouvernement, ça serait d'essayer de récupérer Goma. Bon, je ne pense pas qu'il y ait volonté, peut-être même que les gens soient prêts à aller jusque-là.
Merci Johnson Ishara Boutaragaza, vous êtes acteur engagé dans la société civile du Nord Kivu, vous êtes coordonnateur national de la dynamique Génération Consciente, vous êtes également chercheur en gouvernance sécuritaire et politique. Les statu quo auxquels on assiste seraient consécutifs au fait que les deux parties n'ont pas la volonté de mettre fin à cette situation de guerre, comme l'a dit Rigen Miviri et aussi le prof Bob Kabamba.
Vous avez suivi le président de la République dans sa conférence de presse. Il a dit que il ne sait même pas à quand cette situation va prendre fin. Il y a que Dieu qui sait. Je pense que c'est pas Dieu qui dirige. Il y a un homme qui dirige. Vous avez suivi également ce que le ministre des Communications a dit, qu'il faudrait que Ebola, pour qu'il y ait riposte dans ces zones-là, il faudrait que le 1-23 puisse quitter. Comme si Ebola vient également sur la table de négociation, que pour que nous venions, vous devez quitter. Donc, il faut quand même s'assumer. Et dans cette situation, le statu quo, ça profite des parts et d'autres. On a l'impression comme s'il y a un arrangement de dire...
Un arrangement tacite.
Oui, on se bat, mais chacun reste là où il est.
Mais quel intérêt le gouvernement congolais aurait à entretenir cette situation de guerre?
Justement, c'est ça la grande question que le commun des mortels se poserait.
Et c'est la fin de ce journal préparé par Lievi Mwinga, mis en onde par Dieudonné Nyangasa. Merci de votre attention. Bonne journée.